Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Au fil des pages. Cette semaine, dans toutes les librairies, la célèbre bande Prix Goncourt entoure fièrement le livre du lauréat de l'année. Et aujourd'hui, dans notre studio de Canal Académie, Robert Kopp, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, nous présente non pas le livre du Prix Goncourt 2012, mais son ouvrage à lui, sa saga sur le Prix Goncourt intitulée Un siècle des Goncourt dans la collection Découverte chez Gallimard. Robert Kopp, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu de nouveau à l'invitation de Canal Académie.
Avec joie.
Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes professeur de littérature à l'Université de Bâle et à l'Université de Paris 4 Sorbonne, spécialiste de l'histoire de la littérature et des idées du 19e et du 20e siècle, et en particulier des frères Goncourt. C'est dès 1862 qu'Edmond et Jules Goncourt auraient décidé, pour forcer les portes de la gloire, de laisser après eux des mémoires et une académie qui entretiendrait la vigilance du souvenir autour de leur nom. Edmond, resté seul après le décès de son frère en 1870, dépose chez son notaire, le 7 mai 1792, la version définitive de son testament qui fonde la fameuse société littéraire. 11 ans plus tard, en 1903, l'aventure des 10 commence. Et depuis plus d'un siècle, le prix Goncourt est un des événements littéraires de l'automne. Sa notoriété, son impact en France et au-delà de nos frontières sont considérables. Alors, Robert Kopp, qui sont Edmond et Jules Goncourt? Vous aviez dit, j'ai lu, des déclassés en quête de reconnaissance et qui s'opposaient à l'Académie française. Et que stipulait précisément le testament? Et qu'en est-il finalement de nos jours?
Eh bien, les Goncourt, en effet, se considéraient comme des déclassés parce qu'ils ont atterri dans un siècle auquel ils se sentaient quelque peu étrangers, je veux dire le 19e.
Ils auraient préféré le 18e ?
Ils auraient absolument préféré le 18e, l'Ancien Régime. Leur grande époque était l'époque de Louis XV. Ils ont consacré plusieurs livres à des actrices du XVIIIe siècle, aux maîtresses royales. Ils ont fait le catalogue de l'œuvre de Watteau. Ils étaient grands collectionneurs de gravures, de dessins de gouache de Watteau, de Latour, de Moreau, etc., etc. C'était leur siècle et ils estimaient que c'était le siècle le plus civilisé que l'Europe ait jamais connu et que c'était le siècle de la femme. Évidemment, non pas de la femme courante, de la femme bourgeoise, de la paysanne, mais de la femme cultivée qui tenait salon, qui était l'amie de Diderot, de Voltaire, qui protégeait les encyclopédistes, etc., etc. Donc, ils se sentaient un peu étrangers dans ce siècle démocratique, entre guillemets, d'autant qu'ils étaient assez fiers de leur petite noblesse qui, elle-même, provenait du XVIIIe siècle. C'est leur aïeul qui avait acheté la terre des Goncourt, quelque part, en Lorraine. Mais leur problème était encore autre. Ils ont constaté, avec Flaubert, par exemple, qu'au XIXe siècle, les auteurs, de plus en plus, essayaient de vivre de leur plume. Un des premiers était Balzac.
Sauf que on sait qu'il avait du mal.
Et il avait beaucoup de mal. Il pouvait vivre un peu de ses romans feuilletons, mais pas tellement de ses livres, d'autant que les contrefaçons belges lui rendaient la vie difficile. Et Balzac, on le sait, a essayé de se faire entrepreneur, imprimeur, a essayé d'exploiter ou de faire exploiter des mines d'argent en Corse. Il s'est voulu homme d'affaires. Ça n'a jamais marché, mais toujours est-il qu'il a essayé de gagner de l'argent autrement que par sa plume, car sa plume ne lui suffisait pas. Et au fond, les auteurs au XIXe siècle, surtout à partir de la moitié du XIXe siècle, avaient deux solutions. C'était soit faire de la littérature de consommation, écrire pour les théâtres de boulevard, faire des vaudevilles ou faire des romans feuilletons. C'est-à-dire aller vers le public, se prostituer même devant le public pour chercher ses suffrages. Ou alors mourir de faim, ne pas se préoccuper du public et accepter une vie relativement misérable. C'était le cas de Nerval, de Baudelaire, etc. Et la troisième solution, c'était d'être rentier. Mais ce n'était pas donné à tout le monde. Ils avaient la chance de l'être. Chacun a hérité de leur mère, qui est morte en 1848, 5 000 francs hors de rente, ce qui correspond peut-être aujourd'hui à 40 000 euros par an, quelque chose de cet ordre-là.
De confortable.
De confortable, ce n'est pas l'aisance, mais c'est loin d'être la misère. Et comme ils partageaient tout, ils avaient donc des revenus qui leur permettaient et d'acheter des livres, des manuscrits, des tableaux, des gravures, d'être collectionneurs, d'avoir des meubles anciens, des gravures japonaises, des bibelots, etc., etc., de voyager et de ne rien faire d'autre que s'occuper de leur littérature. Car le but de l'opération était d'être libre, de ne pas accepter une charge de scribe dans un ministère.
C'est ce que Edmond avait et qu'il a arrêté
Tout de suite arrêté. Ou de devenir professeur d'anglais, comme c'était le cas de Mallarmé, c'est-à-dire avoir une sorte de gagne-pain et faire des livres dans le temps qui reste. Eux, ils ne voulaient faire que leurs livres et uniquement de la manière dont ils les concevaient, c'est-à-dire sans souci du succès public immédiat. Ils pensaient qu'ils seraient reconnus un jour, mais ils n'allaient pas chercher le succès immédiat. Mais quand même, pour pérenniser leur nom, ils ont eu cette idée assez géniale de lier la fondation de cette société littéraire dont le but était d'affranchir quelques écrivains des contingences matérielles de la vie et que cette société porte leur nom. Donc, cette Académie des Goncourt et le prix annuel qu'elle était chargée de distribuer, cette Académie des Goncourt devait à la fois affranchir quelques écrivains
et les lauréats.
Et les lauréats, mais les lauréats pour une fois. Ça permettait de voir
c'était
venir.
C'était un prix correct, quand même.
C'était le prix de 5 000 francs. Il était inférieur à la rente à vie qu'avaient les académiciens au départ. Mais tout de même, ça permettait à un jeune auteur de faire son prochain livre, d'être libre pendant un an ou deux. Et en même temps, comme ils attachaient leur nom à cette fondation, ils pensaient passer ainsi à la postérité et aider leurs œuvres d'arriver à la postérité aussi par ce moyen.
Seulement, il y a eu des dévaluations et ça n'a plus rien été de tout ça.
Oui. Alors, Edmond, l'aîné qui est mort le dernier en 1896, a donc couché dans son testament la volonté des deux frères de créer cette société littéraire et ce prix. Le testament a été attaqué par la famille, il n'avait pas de famille directe, mais c'était des neveux, car les collections des Goncourt, pour alimenter ces rentes viagères et ce prix, devaient être vendues. Et c'est Edmond lui-même qui avait préparé encore les catalogues de cette vente ou de ces ventes, car il y a eu 7 vacations de plusieurs jours chacune. Et ces ventes ont produit la somme tout à fait remarquable de 1 350 000 francs or. Alors, si on avait pu les placer à 5%, faites le calcul, on serait arrivé à 65 000 francs or, 10 fois 6 pour les rentes, plus 5 le prix. Sauf que la société devant être reconnue d'utilité publique, obligation lui était faite de placer ses fonds en obligation sur l'État.
Et c'était 3%.
Et c'était 3%. Donc, dès le départ, les académiciens ont renoncé à une partie de leurs émoluments pour augmenter le capital. Et ensuite, il y avait la publication des œuvres complètes, puis la publication du journal, puis la publication d'autres textes des Goncourt qui ont produit quelques droits d'auteur et cette rente qui avait été divisée par deux, ensuite augmentée petit à petit en puissance. Mais nouvelle catastrophe, après 14-18, il a fallu payer la casse. et le franc or a été dévalué de ses 4 cinquièmes. Donc, si vous aviez 100 000 francs or, il vous en restait la valeur de 20 000. Et la fortune de l'Académie s'est volatilisée et le montant du prix est devenu quelque chose de tout à fait symbolique. Et aujourd'hui, c'est un chèque symbolique de
10 euros.
Voilà, exactement de 10 euros que les lauréats encadrent. Mais aujourd'hui, la renommée du prix est telle qu'elle assure aux lauréats des tirages extrêmement importants de 400 000, 500 000, 800 000 exemplaires même. Et donc, le lauréat, par les droits d'auteur que génère le prix, acquiert aussi cette liberté de création que les Goncourt voulaient lui assurer. Alors, malgré tout, le but, au moins pour le lauréat, est atteint et l'Académie, elle, profite de la renommée. Ce sont des écrivains qui sont déjà connus, mais qui sont encore plus connus parce qu'ils appartiennent à l'Académie des Goncourt. Donc, les écrivains qui, aux yeux des Goncourt, devaient être libres de ne pas s'incliner devant le public, maintenant sont libres grâce au succès public, en quelque sorte.
Oui, ce qui est donc une vraie réussite.
Ce qui est une vraie réussite.
Qui est beaucoup plus pérenne grâce à ça.
Qui est beaucoup plus pérenne, oui. Ben, on peut toujours essayer de refaire l'histoire et imaginer une gestion plus dynamique de ce patrimoine. Imaginez qu'il eût été placé en terrain aux abords de Paris. Si vous pensez à l'histoire napoléonienne, Napoléon a récompensé beaucoup de ses maréchaux en leur donnant quelques hectares aux portes de Paris. Et c'est ainsi que la noblesse d'Empire, du moins certains descendants, jusqu'aujourd'hui, sont très à l'aise. Et on aurait pu imaginer des placements de ce genre pour les Goncourt, mais comme c'était des papiers sur l'État, évidemment, leur sort était scellé. Mais dès le lendemain de la Première Guerre, en 1919, un des académiciens, Jean Ajalbert, a fait part à ses confrères de ce risque de dévaluation. Et il a dit, mais si notre fortune devait petit à petit disparaître, par quoi pouvons-nous la compenser? Eh bien, par la renommée du prix. Dès le lendemain de la Première Guerre, quelqu'un a déjà prévu, oui, cette évolution. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Et le prix s'est imposé assez rapidement, ce qui explique aussi les intrigues montées par les éditeurs très vite pour l'obtenir, car ce qui est bénéfique pour l'auteur est évidemment bénéfique aussi pour l'éditeur, et les uns et les autres, et les plus grands, bien entendu, notamment Bernard Grasset et Gaston Gallimard, ne se sont pas privés d'essayer de pousser leur pion.
Alors, il s'agissait de romans naturalistes, parce qu'il fallait ne pas faire de l'érudition. Fallait pas...
Oui, alors il est évident qu'un jury, si on lui demande de couronner un roman, a une tendance tout à fait naturelle de couronner des auteurs qui, dont les œuvres ressemblent peu ou prou aux œuvres publiées par le jury. Il faut ajouter encore que cette Académie des Goncourt, 10 personnes donc, est composée exclusivement d'écrivains, de romanciers de préférence. Il y a eu des hommes de théâtre, Sacha Guitry, il y a eu des poètes, Robert Sabatier, mais essentiellement de romanciers. Et cette Académie, dont les noms les premiers figurent dans le testament d'Edmond de Goncourt, et à partir des années 70, Edmond commence à faire des listes. Et dans les premières listes, on trouve Flaubert, Maupassant, Zola,
Théophile Gautier, pas longtemps.
Théophile Gautier, Huysmans, etc., etc. Alors,
les uns meurent,
et avec les autres, ils se brouillent. Parce que, comme ils voulaient faire une académie littéraire, une académie qui se préoccupe du roman, cette académie était fondée un tout petit peu contre l'Académie française qui, elle, donnait des prix, mais pas à des romans, des prix de poésie.
À ce moment-là, hein, parce que ça viendra.
Ah
mais
oui,
pas
oui,
à
ça
moment-là.
Viendra. Des prix de poésie, des prix d'histoire, des prix de vertu. Et donc, il voulait créer cette société un tout petit peu contre l'Académie française en mettant en avant un genre, le roman, que l'Académie semblait négliger. Et à l'intérieur du genre romanesque le roman naturaliste. Le roman naturaliste, qu'il ne faut pas confondre avec le roman de Zola, car ce sont souvent des naturalistes un peu dissidents qui estimaient que Zola, c'était le naturalisme du caniveau, le naturalisme des poubelles, le naturalisme des bas-fonds. On pouvait, aux yeux des Goncourt, faire très bien un roman naturaliste sur une comtesse totalement schizophrène, c'est-à-dire des études de cas.
Oui, et pas souvent seulement... provinciaux.
Souvent provinciaux, souvent provinciaux. Donc, au départ, on couronne des romans qui se situent dans la tradition, grosso modo, de naturalistes, qui sont donc des romans tranches de vie. Et puis, les événements les poussent dans cette direction, car la guerre de 14-18 a produit une littérature de guerre très importante et ils ont évidemment couronné un certain nombre de romans de guerre, le plus célèbre étant Le Feu de Barbus.
Oui, mais n'empêche qu'en 1919, ils ont couronné Proust.
Proust n'est pas d'Orgelès.
Pas d'Orgelès. Voilà.
Oui, alors, le prix Goncourt est un des rares prix qui, pendant la guerre de 14-18, a été distribué. Même si, à un moment donné, celui de 14 a été ajourné et donné plus tard. Voilà.
Ouais.
Mais il y a eu la littérature de guerre qui a été encouragée. Et au sortir de la guerre, il tourne la page, il couronne Proust, dont il a déjà été question en 1913. Et c'est toujours Léon Daudet qui propose Proust comme le romancier le plus inventif de sa génération et il le préfère à Roland d'Orgelès. Alors aujourd'hui, quand on annonce le Goncourt, il y a toujours une partie de la presse qui tombe à bras raccourcis sur les jurés en les critiquant, etc. etc. Alors aujourd'hui, on les félicite d'avoir couronné Proust, mais si on regarde la presse de l'époque...
C'était
on leur reproche amèrement d'avoir couronné...
Un salonneux.
Un salonneux, un snob, un écrivain qui n'était pas jeune, qui n'a pas fait la guerre, donc un embusqué à la rigueur, et surtout d'avoir négligé Roland d'Orgelès et Les Croix de Bois, qui est un magnifique roman de guerre. Et d'Orgelès, plus tard d'ailleurs, est entré à l'Académie Goncourt. Mais il a eu ce mot charmant dans ses mémoires, « Si j'avais gagné contre Proust, on ne me l'aurait jamais pardonné. »
Oui, parce qu'il savait que Proust était un des géants de la littérature du XXe.
Évidemment.
Donc, l'évolution se fait parce qu'ils vont ouvrir, ça ne sera plus que de la prose, il y aura aussi des prix annexes.
Oui, mais beaucoup plus tard. Au départ, et d'ailleurs c'est stipulé ainsi dans le testament, sont couronnés des romans, rarement des volumes de nouvelles. Le testament dit « le prix doit aller à un volume en prose ». Un volume en prose, ça peut être un recueil de nouvelles, ça peut être un récit de voyage, mais de préférence un roman. Et ce testament a été respecté et l'est toujours. Et l'ouverture du prix, c'est encore quelque chose de différent qui intervient après la Deuxième Guerre. Après la Deuxième Guerre, le prix se multiplie parce que cette stratégie de rendre l'Académie plus connue passe par l'accueil de la francophonie. Il y a des prix qui vont à des écrivains belges, à des écrivains canadiens, à des écrivains français d'origine africaine. Ça, c'est une ouverture importante. Et d'autre part, on critiquait parfois l'Académie de couronner des auteurs déjà confirmés. Couronner un premier roman comporte un risque. On ne sait pas comment l'écrivain va se développer. Et ce n'était pas l'avis du jury des Goncourt que de se lancer systématiquement dans la découverte de jeunes auteurs. Mais comme la découverte de jeunes auteurs est une chose importante, l'Académie a créé le prix du premier roman. L'Académie a créé le prix de la nouvelle pour éviter aussi le problème « Pourquoi ne pas couronner de temps en temps un recueil de nouvelles ?» Ça a été fait de temps en temps, mais c'était quand même l'exception. Donc, les premiers romans d'une part, les nouvelles d'autre part, ensuite un genre important, la biographie troisièmement, et même la poésie, que les frères Goncourt n'estimaient pas beaucoup, font l'objet maintenant de distinctions. Mais ce ne sont pas des prix au départ, ça s'appelait bourse du premier roman, bourse de la nouvelle,
oui,
bourse
ça, ça
de la poésie.
Ça, ça a été une façon de contourner.
Oui, parce que le mot prix est réservé au prix Goncourt. Et pour éviter aujourd'hui ce mot « bourse » qui sent un peu son université, eh bien, on appelle ça le Goncourt du premier roman, le Goncourt de la nouvelle, le Goncourt de la biographie.
Et des lycéens.
Et nouvelle ouverture, le Goncourt des lycéens. Alors, il est vrai que le jury, ou la moyenne d'âge du jury, depuis le départ, est relativement élevée. Alors, quand un siège devient vacant, par la disparition d'un des membres, les 9 restants, ou les 8 restants, s'il y a 2 disparitions dans l'année, cooptent de nouveaux membres. Alors, il faut essayer de se mettre à leur place. Ils ne vont pas coopter dans la génération de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Ils ont une légère tendance à coopter des gens qui sont déjà aussi d'un âge un peu mûr, parfois. Et donc, la moyenne d'âge n'étant pas très élevée, les choix, parfois, ne semblent pas des choix très jeunes.
Mais
et
il y a une...
les lycéens, et c'est une initiative de professeurs de lycée de Rennes, les lycéens réagissent différemment. Et la présidente de l'Académie des Goncourt, Edmond de Charleroux, a accueilli avec beaucoup de ferveur cette initiative partie d'un lycée de Rennes de mettre à lire des lycéens. Le jeu est les lycéens choisissent dans la sélection des Goncourt. Il faut savoir, les Goncourt font plusieurs sélections, il y en a 3. La première en septembre, une deuxième en octobre et puis une liste très courte, 8 jours ou 10 jours avant le prix. Et les lycéens sont obligés de s'en tenir à ce choix-là. Mais couronnent ensuite très souvent une œuvre différente et couronnent souvent une œuvre novatrice et couronnent un auteur qui ensuite fait une brillante carrière. Éric Orsenna a été ainsi couronné par les lycéens avant d'avoir lui-même le Goncourt, avant d'entrer dans
l'Académie
française.
C'était pour l'exposition coloniale.
Voilà, c'était pour l'exposition coloniale. Donc, les lycéens ont souvent un goût très sûr et on voit que le Goncourt des lycéens, souvent, ensuite, est couronné, pas nécessairement par le Goncourt, parfois par le Renaudot ou par l'Interallié, ou par le Fémina, ou par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Car... quand au début du siècle, les Goncourt ont créé leur prix, l'Académie française a immédiatement compris qu'en effet, il y avait là une lacune dans leur propre palmarès. Et l'Académie française a créé en pleine guerre, 1915, le Grand Prix du roman de l'Académie française, qui est décerné chaque année jusqu'à aujourd'hui. Et puis, l'année après le premier Goncourt, donc en 1904, quelques dames réunies autour d'Anna de Noailles, se plaignant de ce jury purement masculin et dont la misogynie était
notoire,
absolument notoire, ont créé le prix Fémina. Et les deux prix, et le Goncourt et le Fémina, dans l'entre-deux-guerres, ont été contestés d'une certaine manière parce que les journalistes était toujours obligé d'attendre en face de Drouan la proclamation du Goncourt. Et c'est presque de façon un peu canularesque qu'ils se sont dit « Tiens, si nous aussi, on couronnait quelqu'un et on va appeler notre prix du nom d'un des ancêtres du journalisme, le fondateur de
Renaudot.
La Gazette de France, Renaudot. » Et c'est ainsi qu'est né en 26 le Renaudot, qui est proclamé le même jour que le Goncourt, et les Renaudot, ou le jury Renaudot, retient 2 noms
au cas où.
Exactement, car le Goncourt est proclamé à 13h, le Renaudot à 13h05, au cas où il tombe voilà, sur le même nom.
Et alors pour le Fémina, c'est une histoire de année impaire,
oui.
Premier lundi du mois de novembre ou deuxième
voilà.
Lundi du mois de novembre.
Alors les prix s'étant multipliés, il s'est évidemment posé le problème, que faire lorsque tous les jurys se précipitent sur un même auteur? Après tout, ça n'a pas de sens que tous couronnent, plus ou moins par hasard, le même auteur. Donc, pour éviter cela, les Renaudot choisissent 2 noms. Pour éviter cela, avec le Fémina, il y a un accord. Une année, c'est le Fémina qui annonce son prix le premier et c'est les Goncourt qui sont second. Et l'année d'après, c'est d'abord le Goncourt qui est annoncé et c'est les dames du Fémina qui n'arrêtent leur choix qu'ensuite.
Donc cette année, comme c'est une année paire, ce sera le Goncourt qui
passera. Voilà, c'est le Goncourt qui passera avant. Mais les prix semblent être une spécificité française, car certes, il y en a ailleurs. Il y en a en Allemagne, en Angleterre, le Booker Prize, etc., etc. Mais en France, vous avez un guide des prix littéraires. Et ce guide des prix littéraires a quelques 450 pages. Et vous y trouvez près de 2000 prix, si on compte toutes les distinctions données, je ne sais pas, à Angers, à Dole, à Rouen, et qui portent souvent le nom d'un auteur, parfois le nom d'un auteur local, ou qui couronne une œuvre particulière d'histoire régionale ou de poésie régionale, etc., etc. Il y a près de 2000 prix et distinctions en France.
Donc, ça, c'est donc très franco-français.
C'est très franco-français, c'est un peu l'obsession du palmarès. Alors, l'obsession du palmarès, de la distribution des prix, ça date de l'école de Jules Ferry. Et dans toutes les familles, on a encore les volumes de Jules Verne reliés en rouge et avec de superbes illustrations. Et tout le monde se souvient encore de la distribution de prix. Je dis tout le monde, tous ceux qui ont fait leur scolarité avant 68, puisque les prix et les palmarès ont été supprimés à ce moment-là. Mais dans les têtes, ces palmarès sont restés bien vivants. La preuve, c'est que les prix littéraires continuent à se multiplier et ne sont pas prêts à disparaître.
Ce qu'il y a de très franco-français aussi pour le prix Goncourt et pour les académiciens du Goncourt, c'est que quand l'un remplace un autre, il prend son couvert. Ça se passe à table.
Ah oui. Alors, ça se passe à table parce qu'il y a une tradition gastronomique française qui remonte au XIXe siècle. Les grands restaurants ont été fondés après la Révolution. Et les salons ayant disparu, les lieux de convivialité étaient les restaurants, aujourd'hui ou plus tard, les cafés. Et aujourd'hui, bon, il ne reste plus guère de cafés littéraires, mais au XIXe siècle, c'était le restaurant. C'était le repas entre copains, le premier lundi du mois ou le deuxième et le quatrième jeudi du mois. Et les Goncourt avaient déjà sacrifié à ce rituel les fameux dîners de chez Magny. Magny était le restaurateur. Il était du côté de la rue Dauphine. Et un certain nombre d'écrivains, dont Flaubert, Georges Sand, seule femme admise, dans ce cercle, Tourguenieff, Taine, Renan, Sainte-Beuve et d'autres se sont réunis pour discuter littérature et surtout pour tenir des propos souvent d'une grande liberté. Ces réunions étaient connues dans Paris et avaient un surnom, on appelait ça les dîners datés, datés, c'est-à-dire
libre penseur.
De libres penseurs. Et dans le journal des Goncourt, les propos tenus dans ces dîners Magny sont rapportés et c'est extrêmement croustillant.
Pas toujours gentil, parce que on
ah non,
lu,
ah non, c'est même le
livre,
contraire.
Vous avez un petit
c'est même le contraire de gentil, parce que oui. Les Goncourt étaient de très mauvaises et de très méchantes langues.
C'était caustique.
Oui, pour le moins.
Alors, je voulais, avant qu'on en finisse, dire qu'il y avait eu aussi une petite modification. C'est qu'à partir, parce que je reviens au fait que ce ne sont pas des gens qui sont tout jeunes, à partir de 80 ans, notre vote ne compte plus pour l'élection du prix.
Avec l'allongement de la durée de vie, évidemment, l'âge des académiciens également est devenu de plus en plus considérable. Et il y a quelques années, Georges Semprin avait proposé à l'Académie qu'à partir de 80 ans, on ne votait plus, qu'on était admis d'office à l'honoraria. Cet honoraria était prévu dans le testament des Goncourt. Parce que, en effet, Edmond, qui pensait à peu près à tout, prévoyait le cas de quelqu'un qui était trop fatigué pour participer aux travaux et qui donc, sans être exclu pour autant, se mettait un peu en retrait et pouvait demander l'honoraria. Mais c'était généralement pour raison de santé qu'on demandait l'honoraria. Et maintenant, les académiciens ont estimé que, à partir de 80 ans, on ne voterait plus. On participerait aux réunions, on participerait aux discussions, mais
au
on
dîner.
Ne voterait plus.
Et au dîner. Au déjeuner, d'ailleurs. C'est
voilà, au déjeuner. Au départ, c'était oui. Des dîners et ça a été transformé en déjeuner. Et toujours dans le même restaurant, depuis au début, ils avaient un tout petit peu voyagé avant la Première Guerre, mais à partir de 14, ils sont chez Drouan. Drouan. Et chaque déjeuner donne lieu à un procès-verbal et les archives étant déposées à Nancy, j'ai pu constater qu'actuellement, ils sont à peu près au 1236e déjeuner chez Drouan.
En fait, il y a quand même toujours 10 électeurs.
Il y a 10 électeurs. Maintenant, ils sont 9 parce que Robert Sabatier vient de mourir. Il n'est pas encore remplacé.
C'est conjoncturel. Oui.
C'est conjoncturel. Ben, ça arrive de temps en temps. Oui. Ça arrive de temps en temps. Et cette année, ils vont donc voter à 9 et Robert Sabatier sera remplacé après le Goncourt de cette année.
Eh bien, nous serons tout à fait aux aguets pour savoir qui sera le Goncourt de cette année. Je ne vais pas vous demander si vous avez une petite idée,
parce que ça ne se fait pas. Je refuse absolument de me lancer dans les pronostics.
Nous verrons bien. Alors, avant de nous séparer, Robert Cobb, je rappelle votre livre « Un siècle de Goncourt » aux éditions Gallimard, collection Découverte, qui tombe à point pour le Goncourt 2012. Merci beaucoup, monsieur, et à plus tard.
À plus tard.